Radio Spirale.
Serge-Patrice Thibodeau compte parmi les écrivains majeurs de l'Acadie contemporaine. Du Quatuor de l'errance à Sous la banquise, son tout dernier titre, il refait ici son parcours de poète en compagnie de Paul Bélanger. L'entretien avait lieu à la librairie Le Port de Tête.
Alors, bienvenue à cet entretien organisé par la Maison de la Poésie. Mon nom est Paul Bélanger, je suis directeur littéraire des Éditions du Norrois. Et dans les prochains 40 minutes, on s'entretient avec Serge-Patrice Thibodeau, que nous avons eu le plaisir de publier cet automne, Sous la banquise. Je vais y revenir durant l'entretien. Alors, brièvement présenter Serge-Patrice. Il est né à Rivière-Verte en 1959. Et je passe sur les études et tout, et on pourrait y revenir plus tard, mais surtout sur son cycle de publication. Alors, c'est une œuvre et c'est un parcours qui a été reconnu et récompensé par de multiples prix, dont le prix France-Acadie pour son premier livre, La Septième Chute, le prix Émile Nelligan pour le cycle de Prague, le prix du gouverneur général Selon Ney en 2007 et le Quatuor de l'errance en 1995. Ce même livre a été lauréat du Festival de poésie de Trois-Rivières. Est-ce qu'il y a un troisième titre qui a été... Il y a eu d'autres finalistes, gouverneur général aussi. Enfin, c'est une œuvre qui est largement reconnue et diffusée à l'extérieur de l'Acadie. Encore récemment, il a publié L'attrait des pôles en 2013 à Personnage. Je mentionne ce titre simplement parce que on a dit souvent de Serge-Patrice qu'il était animé par le thème de l'errance, tout au moins que le thème de l'errance était un moteur de l'œuvre, mais pas de l'errance, superficielle, plutôt d'une errance comme d'une connaissance du monde et de soi. Et tout ça teinte sa démarche. On pourrait dire en quelque sorte qu'il s'agit d'un voyage spirituel où les mots voyagent tout autant que le marcheur. Et ma première question serait de cet ordre-là. Quelle est la nature de ce rapport aux mots, aux paysages et aux lieux qui sont partout dans ton travail, même dans le... Évidemment, j'ai relu rapidement, mais dans le premier, le cycle de Prague, beaucoup de poètes t'accompagnent, Gustave Mahler aussi. Et dans tes livres, c'est toujours une présence importante. Les lieux, les écrivains ou les artistes sont toujours très présents dans ton travail.
J'ai 40 minutes pour répondre à cette question.
Oui, absolument. Je te laisse aller.
Tu m'arrêteras, hein, parce que ouais, les journalistes aiment bien, ils pèsent sur le piton, ça décolle, puis je suis plus arrêtable. Et merci à la Maison de la Poésie de m'avoir invité tout d'abord. Depuis l'enfance, je suis fasciné par les toponymes. Donc déjà, le mot par rapport au paysage a toujours été extrêmement important, et surtout un toponyme qui pouvait peut-être évoquer une fiction ou un récit, comme quand j'étais petit, mon père nous amenait le dimanche après-midi à Rivière-du-Loup. Je l'ai cherché le loup en regardant avec les yeux exorbités par les fenêtres. Donc, j'ai toujours un rapport très, très proche avec le paysage. J'ai passé une bonne partie de mon enfance presque en contemplation. Mon père est une personne qui parle presque jamais. Il était camionneur et donc il nous amenait en balade avec lui. Et mon père est d'une nature contemplative. Donc, je pense que j'ai peut-être hérité ça de lui ou il m'a transmis ça. J'ai développé ça, évidemment, lors de nombreux voyages. Il faut peut-être préciser aussi que c'est des voyages que j'ai faits seul. Donc, quand on voyage seul, on est confronté à sa propre voix. On n'a pas le choix. On s'entend parler, on s'entend penser toute la journée jusqu'à ce qu'à un moment donné, on s'aperçoit qu'il y a un silence et qu'on ne pourrait peut-être pas atteindre si on était au centre-ville ou dans sa routine quotidienne. Je voyage aussi avec des mots, ceux des autres. D'habitude, j'amène des livres. Sauf que pour le Quatuor de l'errance, j'avais fait une expérience un peu masochiste. J'étais parti pour 4 mois et j'avais décidé que je ne lisais pas en français. Aucun texte ou que je ne lisais pas. Je voulais être complètement en relation avec
ma parole. Il y a beaucoup de poètes persans dans ce livre.
Oui. Et que j'ai, à partir du moment où je suis arrivé au Pakistan et ensuite en Iran, je suis allé dans des librairies et il y avait des livres en français. Et là, j'ai craqué. Je ne pouvais plus là après un mois. Et, mais c'est des poètes que j'avais lus, parce qu'il faut dire, oui, il y a l'errance, mais il y a une bonne préparation avant. Parce qu'il y a des endroits, évidemment, où on peut bien rêver d'aller. Je reviens à l'Iran, c'est en 92, déjà à l'époque, on ne donnait que 2000 visas par année à des étrangers. Donc ça ne fait pas beaucoup d'étrangers en une année qui entraient dans le pays. Donc j'ai eu vraiment le privilège de pouvoir y passer 2 semaines, même chose dans certains coins de la Turquie. Donc, ça, cette errance-là, évidemment, je l'ai préparée. On parle de mon voyage au Labrador, qui est un des voyages les plus difficiles. Et pourtant, le tout premier que j'ai fait dans mon propre pays.
Oui, ça m'a frappé dans ton livre que j'ai lu aussi, l'Antarctique et l'Arctique. Là.
Oui.
Alors, on dirait que tu as voulu embrasser la Terre entière. Parce que Pakistan, bien sûr, t'as aussi fait des travaux d'archéologue dans le désert. T'as parcouru les deux pôles à toute fin pratique. En tout cas, t'es allé proche du pôle sud absolu et du pôle nord absolu. Mais ils sont toujours associés. Également, ces lieux sont toujours très liés à l'écriture.
Bien, oui, parce que... On parle souvent, oui, de spiritualité, d'errance dans mon cas, mais on a complètement occulté la dimension du temps, de l'obsession du temps dans mon œuvre. Que ce soit les écrits en prose, que ce soit la poésie, c'est une véritable obsession depuis l'enfance. Je retombe dans l'anecdotique, ça me vient de mon père qui ne peut pas comprendre encore à l'heure actuelle que je n'ai pas de montre. Bon, avec un téléphone, aujourd'hui, on peut s'en passer. Mais c'est une véritable obsession. Et quand j'ai fait des fouilles archéologiques, 3 saisons consécutives de 93 à 95 en Jordanie, il y avait ce voyage dans le temps. Je voyais que je voyageais toujours d'un point A au point B jusqu'au point C et ainsi de suite. Et qu'il y avait une autre façon de voyager, surtout dans le temps, c'est par strates verticales. Mm-hmm. Plus on creuse, plus on arrive à une époque. On creuse encore un peu, tiens, une autre époque, une autre ville. Parce que, évidemment, au Moyen-Orient, les monticules, c'est une dizaine de villes, les unes construites par-dessus les autres. Donc, il y avait ce rapport dramatique, il faut le dire, avec le temps, qui m'a permis de tenter de l'écrire d'une certaine façon. Et je pense que c'est très révélateur que le Quatuor de l'errance, en fait, c'est 7 mois d'écriture. Dans un premier temps, un voyage de 4 mois, un autre de 3 mois. Donc, ça a donné ce que ça a donné là, parce que, bon, j'avais aussi le temps d'écrire. Oui. Hein? On revient toujours à ça, les écrivains. Oui. On est des créateurs et aujourd'hui, on est obligé de se créer du temps si on veut continuer à la fois de gagner sa vie et d'écrire. Ça vient de Nicole Brossard, je la remercie. Elle avait dit, là, notre défi principal, c'est de pouvoir se créer du temps. Donc, cette composante-là, le temps aussi, évidemment, dans sa relation avec l'espace, parce que quand je suis monté au Labrador sur 2 semi-cargos, 12 nœuds, c'est pas très vite, hein, c'est 25 km à l'heure. Donc, ça prend du temps à se rendre. J'aurais pu le faire en 2 jours en avion de Moncton à Nain, et
oui,
ça m'a pris...
Tu créais des contraintes qui sont du même ordre que pour tes livres, parce que chaque livre est aussi animé d'une contrainte formelle, ou tout au moins tu as une intuition, où il faut que ça s'incarne dans une forme. Par exemple, dans le Quatuor de l'errance, 21 poèmes, 4 chants, 7 strophes par poème. Là, on passe peut-être à un autre point de la discussion, mais ça m'a frappé que dans tous les livres, il y a une intuition formelle qui est à la base. Alors, comment se développe-t-elle, cette intuition formelle?
Généralement, évidemment, il y a le premier jet. J'ai mon manuscrit, j'ai le substrat, si on veut, qui est un peu comme une motte d'argile qu'il faut travailler, qu'il faut dégrossir. Mais j'écris sur des grands feuillets quadrillés. J'écris depuis toujours sur du papier quadrillé qui me donne une forme géométrique, pardon. Et ça me permet aussi, dans le cas du quatuor de l'errance, il y a tout un système, il y a des vers qui se répètent, mais c'est pas aléatoire, c'est, tout est très songé. Mm-hmm. C'est le 11e vers du 11e poème de la suite de 21, oui. Donc c'est le centre exact, et je pose la question, suis-je rendu au centre? Et plus on s'y approche, plus ça devient mystique, plus on s'en éloigne, plus ça disparaît. Donc ça, je l'ai voulu. Et donc j'avais déjà les 21 pages de chaque séquence sur grand papier, et je savais, toutes les strophes étaient numérotées, donc je savais où était la 11e. Et j'écrivais à l'avance même tel vers qui devait être là.
Être là. Alors, c'était animé par un souci des chiffres.
Faut dire que je suis allé à l'école du formalisme. Puis j'ai failli être chimiste nucléaire aussi, hein, parce que c'est là qu'on m'orientait vers ça. Et je suis fasciné par les statistiques et j'étais très, très bon en mathématiques. J'ai un côté quand même cartésien, mm-hmm. très développé, là, depuis 5 ans. Je fais le même métier que toi et j'apprends le savoureux langage de la comptabilité. Et je trouve ça absolument fascinant. Pour moi, c'est comme apprendre une autre langue.
Ah oui.
Mais je suis obsédé aussi par les chiffres, les structures. On a dit dès mon premier livre que j'étais peut-être davantage architecte. Mais c'est ça la poésie, c'est le mot construction. Hein. Mm-hmm. J'ai grandi aussi dans une famille de... J'ai 9 oncles et 7 sont menuisiers charpentiers. Et il n'y en a pas un qui est allé à l'école. Et puis il n'y a pas une de maison qu'ils ont construite qui s'est écroulée à ce jour. Donc j'ai vu des plans, j'ai vu des équerres, tout ça. Donc la géométrie surtout m'intéressait beaucoup. Donc dans chacun de mes livres, dans le dernier, ça a été différent parce que j'avais déjà tout le texte qui était vraiment en forme libre. Mais pour arriver à la publication, le plus clair du travail a été de faire des strophes parfaitement rectangulaires. Ensuite, d'autres, oui. C'était la section du milieu, il peut avoir 4 distiques, l'autre après, il peut avoir 3 quatrains. Mais il fallait que pour chaque page, ça soit une forme un petit peu obsessive-compulsive, oui, oui. Je l'admets, mais... Pour moi, c'est la façon à l'âge que j'ai de faire des Legos.
est-ce qu'on peut écrire en dehors de toute obsession, de toute façon? J'ai remarqué, puisqu'on est sous la banquise, c'est toujours le même titre, sous la banquise, mm-hmm. Mais les 3 sous-titres, en écoutant Northern Light of Labrador, qui est un western...
Chanson country, oui.
Le country terneuvien. Et puis la dernière, prière radiophonique. Alors, j'ai remarqué qu'on pourrait dire, dans la première partie, plutôt un plan géologique. Dans la deuxième, la colère, mm-hmm. avec le nous, et ça, mm-hmm. j'aimerais qu'on y revienne. Et puis la dernière partie, la prière. Et c'est vrai que j'ai souvent eu l'impression, te lisant, qu'on était dans la proximité des psaumes, ou en tout cas de quelque chose qui nous renvoie à notre tradition, mm-hmm. la tradition biblique de la Bible. Alors, quel est ton lien avec ces...
Je commence dans l'ordre?
Non, dans le désordre.
L'histoire de la prière, j'aurais jamais écrit ça de ma vie si on ne m'avait pas demandé. Je venais de publier les 7 dernières paroles de Judas mm-hmm. en 2008 et j'étais invité au Festival de poésie de Trois-Rivières et Patrick Marsbourian, à l'époque, il avait l'émission « Vous êtes ici ». Donc, il voulait souligner d'une certaine façon le Festival de poésie. Et comme j'étais là, que je venais de publier un recueil sur un thème un peu bizarre, on a fait l'entrevue en studio et l'invité du lundi était convié à écrire une prière. J'ai entendu des discours anti-Harper, j'ai entendu toutes sortes de choses, c'était la liberté totale. Mais moi, j'ai peut-être pris ça au sens premier et je me suis posé la question, mais pourquoi j'ai écrit? Dans quelle situation j'ai prié? Dans quelle situation que j'ai prié? Quand est-ce que ça m'est arrivé de prier? Et donc, j'ai pris ça vraiment au sérieux et ça a donné oui. cette espèce de, oui, près des psaumes, mais un petit peu près des litanies aussi.
Oui, litanies.
Et au fil des ans, bon, il fallait que la prière dure 3 minutes à la radio, donc vous voyez, j'avais déjà une contrainte. Et après ça, au fil des ans, au fil des expériences, je rajoutais des petits bouts. Mm-hmm. Donc c'est comme ça que ce texte est né, sinon... il ne serait pas là si ça n'avait pas été à cause d'une émission de radio. C'est pourquoi je dis que c'est une prière radiophonique. Dans la première partie, c'est une observation très judicieuse que tu fais par rapport à la géologie. Depuis que je suis revenu en Acadie, il y a 9 ans, j'ai commencé à m'intéresser au bassin de la baie de Fundy. Vous savez, Moncton est une ville située en pleine... réserve de biosphère de l'UNESCO, la biosphère de Fundy. Et pratiquement toute la Nouvelle-Écosse, il y a 4 réserves de biosphère en Nouvelle-Écosse, c'est pratiquement tout le littoral, à 4800 km de côte. Et tout ça est préservé. Et donc, j'ai commencé à avoir un rapport complètement différent avec le paysage, oui, mais encore mon obsession du temps, avec l'histoire acadienne. Oui. Tout en traduisant le journal de John Winslow à Grand Pré, je me suis dit, il n'y a pas que ça dans l'histoire acadienne. Il y a l'histoire d'avant 1604. Et là, j'ai tellement reculé derrière, je suis rendu à 350 millions d'années. Donc, oui. Je suis rendu au Carbonifère parce que nous avons les traces... grâce avec des fossiles, les falaises fossilifères de Joggins et du Cap Enragé, on a une histoire très lointaine de l'Acadie, du territoire acadien, qui a complètement, complètement changé mon rapport à l'histoire acadienne et mon rapport au territoire. Donc, depuis quelques années, je fais beaucoup de recherches dans cette région-là pour le prochain livre. De poésie, mais qui va être moitié poésie, moitié essai, probablement. Mais aussi pour
autour de l'Acadie ou de...
Oui, toujours autour de mon rapport à l'histoire et de mon rapport au paysage très ancien qu'on habite et finalement, on ne le sait même pas.
Oui. Et parce que dans le roseau, dans nous, l'étranger, c'est-à-dire, il y a des coupes comme ça, temporelles aussi. La Rochelle, 1654. Déporté 1697-1755, Madawaska 1789. Il y a un souci d'inscription historique du pays. Tu prends comme si tu prenais à charge cette chose-là.
Et je me suis aperçu au fil des ans que c'est très important. Quand j'ai publié le journal de John Winslow à Grand Pré, on pensait peut-être d'en écouler 500 en 10 ans. Là.
Oui.
Et en une année et demie, on a dépassé le 2000. Puis c'est un livre qui coûte quand même très cher. Et on a atteint un lectorat qu'on n'avait pas. Chez nous, là, c'est des gens de tous les âges, de tous les milieux, de toutes les fonctions sociales. Et ça m'a vraiment bouleversé de voir à quel point les Acadiens veulent connaître ce qui est arrivé. On peut pas construire notre identité si on ne sait pas ce qui s'est passé dans l'histoire. C'est pas possible. Moi, je viens des Appalaches, comme tu disais, Rivière-Verte, c'est sur la frontière du Québec et des États-Unis. Et je me disais, coudonc, ça a l'air qu'on a été déporté, mais il n'y a pas un bateau capable de monter les chutes de Grand Sault puis les chutes à Edmundston. Ça n'a pas d'allure.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis là, je suis allé voir le spécialiste au Centre d'études acadiennes, puis j'ai dit, il y a des trous dans mon histoire, je ne comprends rien. Il dit, tu ne serais pas acadien s'il n'y avait pas des trous dans ta lignée. Il dit, on a tous des trous à quelque part. Et c'est ce qui fait qu'il faut qu'on cherche à les combler. Mais ces recherches-là, surtout les 7 ans que j'ai passés avec le personnage de John Winslow, m'ont contraint à avoir un souci d'objectivité que je n'avais pas. Bon, on est poète, tout ça. Il fallait vraiment que j'aille avec la réalité historique, que je fasse attention à l'interprétation.
Oui, parce que tu n'as pas seulement traduit, là, c'est une édition circonscrit.
Oui, c'est ça. C'est vraiment une édition critique, là, avec... annexes, index, de très nombreuses notes de bas de page. J'accompagne les gens dans cette lecture-là. Je ne pouvais pas juste donner ce document-là en français moderne à des lecteurs. Il faut contextualiser. Et il y avait des difficultés de traduction énormes. Et j'ai remarqué que pendant 7 ans, j'ai réprimé beaucoup, beaucoup d'émotions par rapport à cette réalité crue, à la déportation, disons-le comme telle, que non, je n'ai pas le droit d'être émotif, tout ça. Puis là, je continue la conversation qu'on a eue à Caraquet au mois d'août. Après le poème, on revient sous la banquise, on ne s'en éloigne pas. Central autour de la colère. Après que je t'ai parlé, je suis revenu à la maison et j'ai dit, mais c'est vrai, j'ai oublié de dire à Paul que j'ai écrit ça tout de suite après la publication du journal de Winslow et de ses conséquences. J'ai publié le livre en octobre, et octobre-novembre, ça a été jusqu'à décembre, assez intense. Et là, la revue Pierrot à Paris, que tu connais déjà, ils m'ont demandé un texte pour le Printemps des poètes 2011 sur le thème « Infini paysage ». Et on venait de vivre une tempête, épouvantable, au Nouveau-Brunswick. Toute la côte a été complètement... défaite, la dune de Bouctouche a été défaite, la moitié de la dune a été emportée par la mer, une tempête qui a duré 72 heures, due au changement climatique et tout ça. Donc, toute cette colère réprimée que j'ai contre la situation actuelle de notre climat, l'érosion de nos côtes, tout ce qu'on est en train de faire à l'environnement, ça devait être ça, la prémisse de ce poème. Mais là, tout ce que j'avais réprimé comme colère depuis 7 ans...
La colère du pays.
...est sorti. Ouais.
Oui.
Et en plus, c'est un poème, j'ai décidé qu'il y aurait des acadianismes,
oui.
Pas mal d'acadianismes.
On mais en qui, avait parlé pour la... Oui,
oui mais qui sont directement liés au paysage.
Oui. Oui.
C'est pas... Si on les relève tous, on voit que c'est des notions de paysage. Et donc, c'est étrange qu'en nommant le paysage, avec des mots qui nous sont propres, tout ce que j'avais réprimé en 7 ans est ressorti. Oui. Mais bon, c'est assez tempéré.
Le « nous » est souvent associé à... Je ne dirais pas une colère formelle tout le temps, mais en tout cas, quelque chose de sourd qui gronde. Sous la banquise, page 47, « De nous, il reste une arête d'éperlant, une fine épine de sonnelier, des racines de toc en travers, de notre langue en lambeaux, saute la deuxième strophe. On nous a volé nos tristes hivers. En ce trop peu de nous, il reste l'étrange et seul espoir que la mémoire nous revienne. » Et ça aussi, c'est un autre aspect de ton travail sur la question de la mémoire. C'est le temps aussi, là, mais c'est quelque chose qui vient dialoguer avec la colère. Mais la colère est là concernant le pays perdu, disons.
Il ne faut pas gratter trop creux. Moi, j'ai des gens, surtout les Acadiens de la Nouvelle-Écosse, ont une attitude complètement différente de la nôtre au Nouveau-Brunswick. Surtout les gens de la région de la Baie-Sainte-Marie, d'où vient Georgette Leblanc, que certains d'entre vous connaissez. La colère est très, très, très présente là-bas. Ce sont des gens, des Acadiens, qui ont été déportés pour la Géorgie et un État voisin, je pense la Virginie, et qui ont nolisé un bateau à un moment donné, puis qui ont pu revenir en Nouvelle-Écosse, mais pas sur leur terre originelle. Donc, c'était des agriculteurs de la vallée de l'Annapolis, qui avaient des terres d'une richesse incroyable, et qui, là, ils se retrouvent sur un littoral de cailloux, et ils sont obligés de devenir pêcheurs. Donc, ils sont passés de l'agriculture à la pêche. Hein. Les Acadiens, avant la déportation, ils n'étaient pas des pêcheurs. Mm-hmm. Ils le sont devenus par la force des choses parce qu'on leur a donné des terres stériles le long des côtes. Donc, ils ont dû s'adapter à leur environnement. Mais parmi les 350 000 Acadiens des provinces maritimes, sont à peu près les seuls qui ont véritablement été déportés et qui sont revenus. Il ne faut pas croire, là, tous les mythes de Pélagie Lacharette, que tout le monde, tous les Acadiens qui sont en Acadie aujourd'hui sont revenus d'exil. Ce n'est pas vrai. On est les descendants de ceux qui, justement, se sont cachés et qui se sont réfugiés dans les forêts jusqu'à Kamouraska. Ma famille s'est réfugiée jusqu'à Kamouraska.
On le voit dans ton travail sur Winslow, d'ailleurs.
Oui. Et d'ailleurs, à partir de 1749, Grand Pré a commencé à se vider. Il y a eu plus d'un millier de personnes qui est passé en territoire français, ils savaient ce qui s'en venait. Halifax venait d'être construite, plusieurs forts militaires britanniques étaient construits, donc ils voyaient le trouble venir. D'autres étaient trop attachés à leur terre et ont voulu rester, mais c'est eux qui ont été déportés. Mais ceux qui se sont réfugiés dans le Nouveau-Brunswick actuel, et jusqu'aussi au nord qu'à la Baie-des-Chaleurs, Gaspésie, mais surtout dans la vallée du Saint-Laurent, de Kamouraska jusqu'à la ville de Québec, eux, après la guerre de 7 ans, ils sont tranquillement revenus. Il y en a qui ne sont pas revenus, c'est pourquoi il y a tellement d'Acadiens, de familles acadiennes ou de familles originaires de l'Acadie ici au Québec. Mais comme dans le cas des Acadiens des provinces maritimes, on est des descendants de réfugiés, on a été dérangés. Là, je ne vous amènerai pas les grandes explications historiques, mais on n'a pas été déportés, nos ancêtres non plus.
On commence à comprendre... en t'écoutant, que la dimension politique, la dimension éthique, la dimension poétique, le géographe, l'homme intéressé par les mots, par la poésie, surtout, dans une volonté de tout embraser du monde, tout ça finit, et là j'utilise la citation d'Edmond Jabès qui ouvre l'Équateur de l'errance, je crois, « La liberté est dans le livre ».
Oui, surtout dans la marge. Pas au milieu de la page. La liberté dans le livre, certain, parce que je n'ai jamais été en prison, mais j'imagine qu'être en prison et lire un livre, c'est en sortir. C'est comme ça que je le vois. La liberté, si je pense que je n'avais pas eu de livre dans mon enfance, c'est pas que je n'ai pas eu d'enfance malheureuse, là, loin de là. J'ai même eu le privilège de grandir sur une ferme traditionnelle avec des champs à perte de vue, un espace avec... Ma famille n'est pas une famille, c'est véritablement une tribu, donc avec des dizaines et des dizaines de cousins, cousines. Mais pour moi, c'était une façon de m'évader, une façon de voyager pour le livre.
Il y avait des livres à la maison, donc?
Très peu. Ça a commencé par un Nouveau Testament avec les couvertures arrachées, le bottin téléphonique, le catalogue Simpson à l'époque. Mais mes parents, j'avais des oncles et tantes qui étaient enseignants. Donc, je fréquentais mes cousins et cousines de mon âge, et donc on me prêtait des livres. Dès la première année à l'école, mes maîtresses me prêtaient des livres de contes, jusqu'à ce qu'à un moment donné, chez nous, le gouvernement a développé un système de bibliobus. À toutes les 3 semaines, le bibliobus arrivait au village, puis il restait là 3 jours. On avait droit à chaque personne d'emprunter 9 livres. Donc, avec ma cousine Micheline, mon cousin Rodrigue et tout ça, 9 livres chacun. On avait 27 livres au lieu de 9 à lire en 3 semaines parce qu'on se les prêtait.
Mais t'étais déjà un lecteur gourmand.
Oui. Et même, la situation financière de ma famille s'est améliorée, tout ça. Puis il y a eu la construction d'une bibliothèque publique à Edmundston, qui est à 16 kilomètres de mon village. Et tous les samedis matins, mon père m'amenait avec mon petit frère, ma petite sœur, à 9h à la bibliothèque municipale. À midi, on allait manger des fish and chips en face. On revenait, puis à 3h l'après-midi, il venait nous chercher. Donc, on passait la journée à la bibliothèque à faire nos projets, nos travaux. Et moi, je commençais quand même à être un peu plus vieux, là, 14, 15, 16 ans.
Et la poésie, c'était à ce moment-là?
Non, pas du tout. Je n'aimais pas vraiment la poésie, moi. C'est bizarre.
Non, non.
J'ai découvert la poésie, je pense, j'avais 18, 20 ans. Mais c'est-à-dire qu'en 10e année, ça équivaut ça. Quand j'avais 15 ans, c'est le secondaire 2 ou 3 ici. J'avais vu une pièce de théâtre très mauvaise par ailleurs. C'était l'époque des créations collectives. Oui. Puis le secrétariat d'État envoyait toutes sortes de troupes nous cultiver chez nous, dans nos campagnes. Et c'était une création collective, mais il y avait une scène avec le fameux sonnet de Ronsard, « Prends cette rose aimable comme toi », blablabla, avec un seau à glace, des fleurs en plastique là-dedans. Puis. Et après ça, il y a quelqu'un d'autre, c'était complètement décousu. Quelqu'un est venu avec « Cage d'oiseau » de Saint-Denis-Garneau. Puis là, ça a été un choc. Je pense que ça a été un choc parce que je l'ai entendu. J'ai entendu ces deux poètes-là sur scène avant de les avoir lus. Et j'ai demandé à ma professeure qui c'était, et le lendemain, elle m'a amené les livres. Et c'est comme ça que j'ai commencé à lire de la poésie et que j'ai découvert que ça n'avait pas besoin de rimer avec Saint-Denis-Garneau, qu'on pouvait être à l'écoute de sa voix et de la transmettre par écrit avec une liberté totale.
Oui, tout à fait.
Et après, il y a eu une ellipse parce que j'ai quitté le pays très jeune pour participer à Jeunesse Canada Monde. Donc, je me suis retrouvé en Afrique. J'ai sauté la 12e année.
C'est un autre aspect de ta vie, là.
Ça a tout changé.
L'engagement dans la réalité, si on peut dire, auquel le poème participe complètement aussi.
Surtout quand ça fait quelques jours, tu viens d'avoir 17 ans, puis on t'envoie à l'autre bout du monde. D'ailleurs, c'est là la première fois que j'ai vu la mer en Côte d'Ivoire. Je n'avais jamais vu la mer avant. J'ai grandi dans les montagnes. Donc, c'est quand même assez spécial. Et ça a complètement changé ma vie. C'est-à-dire, ça a changé ma vie. Ça a été déterminant pour la personne que je suis devenue. L'engagement social comme citoyen, la fascination pour l'autre, l'écoute de l'autre qui est complètement, radicalement différent de soi. Aussi, l'éloignement, la coupure avec ses proches et du pays natal. C'est quand même à 17 ans, quitter la famille. J'étais le 5e enfant, j'ai été le premier à quitter la famille pour une période de 8 mois. Et ça a fait que je suis devenu quelqu'un de très indépendant et qui a toujours été fasciné par le voyage.
Oui. Et la rencontre. C'est-à-dire qu'en te lisant, on se rend bien compte que la poésie, comme le voyage, est une forme de rencontre, mais on ne s'en approche jamais assez. C'est comme un mouvement perpétuel. Il y a une citation que j'emprunte, je ne me souviens plus à quel livre, « Sur la route du désarroi, je commence le voyage ». Donc, il y a une question de, en même temps, appelons ça un décentrement, un déséquilibre qui te met à l'affût, finalement, du voyage qui commence, dont on ne sait rien. Mais
on part toujours d'une base, on est complètement déstabilisé, c'est le désarroi. Et je pense que c'est ça, c'est un des défis que j'aime particulièrement du voyage. Tu as parlé du pôle sud tout à l'heure. J'ai toujours réinvesti mes prix littéraires dans les voyages. Je n'ai jamais payé de dette avec ça, ou d'appartement, ou de facture, quelle qu'elle soit. Et je venais d'avoir un prix avec une bourse quand même de 4 000 $. Puis ça faisait 3 mois, j'avais le chèque, je ne l'avais pas encaissé. Et je me suis dit, t'es rendu pépère, là, grouille-toi. Et un bon matin, dans l'Acadie Nouvelle, en quatrième de couverture, si on peut dire, il y avait une vente de sièges de Air Canada avec plein de destinations dans le monde. Ça fait que là, je suis sur Internet. Bon, tape ici, tape là. Les contraintes, partir 1er janvier, revenir 31 janvier. Et la seule destination, c'était Buenos Aires. Donc, j'achète le billet sans réfléchir. Et pendant 2 semaines, j'étais dans un état de panique totale.
Oui, ça, le livre, t'en rends bien compte dans ton livre.
Mais qu'est-ce que tu vas aller faire là? Et finalement, ben, je me suis aperçu que, souvenu que quand j'étais petit, j'ai toujours voulu traverser le détroit de Magellan. Et je suivais la série Ushuaïa aussi. Je voulais me rendre à Ushuaïa, même si l'émission n'a rien à voir avec la Terre de Feu. Et c'était un défi pour moi de descendre par autobus 3500 km. Le long de la côte de l'Atlantique.
Oui, d'ailleurs,
et plus en descendant, plus je comparais à la côte atlantique où j'ai grandi. Donc oui. Là, je suis rendu à peu près au niveau de cette île.
Ah oui, la même latitude inversée.
Et ce qui a été radicalement déterminant aussi, c'est que je me suis aperçu, après 30 ans de voyage, que je pensais ouest-est, est-ouest.
Ah oui.
Comme d'habitude, on est programmé pour penser. Oui. Et là, pendant un mois de temps, je pensais nord-sud, sud, nord, nord-sud. Et je me suis dit, ben, c'est la première fois dans tous les déplacements où j'ai ce sentiment de ne plus aller dans la même direction.
Oui, ça, je peux
perdre le nord.
Oui. Oui, je peux témoigner du même choc, parce que quand on va dans le sud, on se rend compte qu'on a une familiarité qu'on n'est pas capable d'expliquer. C'était vrai au Brésil, c'est vrai en Argentine, c'est vrai en Haïti aussi. C'est comme une communauté, là aussi, qu'on découvre et dont on ne nous a jamais parlé, finalement.
Puis je leur disais, comme rendu à Ushuaïa, je disais, d'où viens-tu? Puis j'ai de l'autre fin del mundo, de l'autre fin du monde, parce que partout c'est écrit El fin del mundo, Ushuaïa, ah oui. El fin del mundo. Puis c'est leur marque de commerce, si on veut. Hein. Ici, c'est la fin du monde. C'est, le monde oui. s'arrête là. Et je disais, moi, je viens de l'autre bout. Puis ça les faisait rire. Puis il y avait, c'est drôle, il y avait vraiment un sentiment de familiarité, de camaraderie, parce que moi aussi, j'habitais le littoral de l'océan Atlantique. Oui. Mais dans un lieu aussi perdu que le leur.
Oui, oui.
Et c'est drôle, cette distance-là, au contraire, nous rapprochait.
Oui, ça donne un livre, en tout cas, intéressant. Et on découvre, en tout cas, qu'on voyage finalement beaucoup mieux en Argentine que pour aller dans le nord, avec les autobus.
Oh mon Dieu, oui. Puis ça coûte pas mal moins cher. Non, ça, c'est vrai, il y a une infrastructure, évidemment, la masse critique le demande.
Oui.
C'est pour ça que c'est très difficile pour nous de voyager dans le Nord, dans le Moyen-Nord et encore pire, dans le Grand Nord.
Là, je reviens au livre. Tu écris aussi, je paraphrase un peu, il y a une expression, enfin, j'ai tout mêlé la citation et tout le reste, comme d'habitude. « Chaque pas nous conduit vers l'avant et roule derrière moi une pierre de meule. On en ferme l'accès. » Comme si, bon, il n'y a aucun retour possible. Le trésor est enfermé dans ce qui fait retour dans le poème. Comme l'expérience des métamorphoses, finalement. C'est-à-dire, mais c'est scellé. Il y a un saut que le poème ferme. Ouais, ben, ferme et ouvre en même temps, là, mais bon.
Il y a ça, mais cette fameuse pierre de meule, c'est la pierre de meule aussi avec laquelle on avait fermé le tombeau de Jésus au Golgotha. Mais c'est aussi, il faut dire que mon ancêtre acadien était meunier. Et il y a même une île aux meules dans la baie de Fundy où les meuniers se ravitaillaient. Et donc, il y a ce double sens-là. Mais c'est vrai que faire un pas en avant, c'est laisser derrière soi. Oui. Il y a des choses et des fois, justement, il faut sceller. C'est pas garder des secrets qu'on ne veut pas déterrer, mais à un moment donné, il faut dire bon point final sur tel événement. Et le voyage permet ça.
Et ça, je reviens un peu à la forme, puisque tu m'en donnes l'occasion. Tu évoques la dualité. Cette dualité-là, on la trouve souvent dans les livres, comme un double sens, en tout cas, pas une dualité, mais un sens qui est polymorphe, autrement dit. On pense parler d'une chose, on pense parler du voyage, et on parle peut-être de toute autre chose par association.
C'est ces niveaux de sens, différentes strates, je reviens à l'archéologie. Hein. Tu es toujours sur le même... Tu es avec le même mot, la même image, la même métaphore, comme tu es... Toujours t'occupes ton 2 pieds carrés, mais plus tu creuses, plus l'interprétation devient possible, les différentes interprétations deviennent possibles. Mais c'est vrai qu'on me considère peut-être un poète plutôt difficile d'accès à cause que dans une séquence de quelques poèmes, je peux jouer sur 5, 6 strates différentes. Et ce n'est pas évident à première vue, non. À première lecture. Ça, j'en suis conscient. Mais il y a des fois aussi que c'est parfaitement inconscient et que ça me surprend quand je me relis.
Oui, mais ce qui est évident dans la première lecture, même s'il nous échappe, mais ça, c'est commun à toute poésie, en quelque sorte. Il y a quand même un souci de lisibilité immédiate. C'est-à-dire que les grands mouvements du Quatuor de Prague, une poésie très, très lyrique, si on peut dire, on n'est jamais perdu en ceci que la syntaxe nous rassemble, en quelque sorte. Donc, c'est un souci quand même, non pas de perdre le lecteur, mais de le garder à proximité tout de même.
Oui, puis je pense que ça devient de plus en plus évident aussi depuis mes trois, quatre derniers recueils. Et c'est peut-être la pratique de l'essai, écrire pour se faire entendre, puis émettre un raisonnement pour pouvoir se faire comprendre. Donc, peut-être que j'ai donné beaucoup, beaucoup de conférences aussi pour des sociétés historiques un peu partout dans les Maritimes. Donc, là aussi, il faut que tu partes du point A, puis tu te rendes au point Z avec un raisonnement. Et je pense que peut-être que ça a eu un effet sur l'écriture de ma poésie. Il faut dire aussi que pendant 10 ans, j'ai écrit des récits de voyage dans le Sabah.
Oui, c'est vrai.
3 par année, c'est quand même de 1999 à 2009. Au début, j'ai toujours été complexé par ma prose. Et encore là, j'aurais aimé écrire du théâtre.
C'est quand même beaucoup de poète, ça.
Oui, mais si Joanne ne m'avait pas tendu la perche en 2009, le contrat étant que je m'engageais pour un minimum de 2 ans et que j'arrêtais quand je voulais, après 10 ans, elle ne voulait plus que j'arrête. J'ai dit, bon, premièrement, je ne voyageais plus. Puis,
je voyageais moins. Cette-ci va être rassemblée dans un livre?
Oui, il y en a 15 qui ont été rassemblés dans Lieu caché.
Oui.
En 2005, et 10 dans la Traite d'épaule.
Oui.
Donc, 4 pour l'Argentine et 6 pour le Labrador.
Je reviens encore à la poésie et encore quelques éléments et on passera à une lecture et à vos questions. Tu écris, la poésie, pour être expérience, doit être d'abord transformation.
Oh! Faut que je recule un petit peu, là, à l'époque. Ben, c'est dans le sens transformation, dans le sens d'épiphanie.
Oui.
Faut vivre des trucs qui nous déstabilisent, oui, mm-hmm. qui nous émerveillent et qui nous transforment. Dans le bon sens, là, on ne parle pas de Gregor Samsa dans la métamorphose. Mais on le souhaite à personne, mais on... Oui, et là, on peut dire que ce n'est pas juste une construction d'une métaphore, c'est vraiment quelque chose qu'on veut partager suite à cette transformation-là. Et c'est là où la poésie devient expérience.
Oui, et là-dedans, c'est parce que, évidemment, je retourne à une citation de Moshe Oddin Saad. Je contemple sans intermédiaire celui avec la majuscule que j'aime. Évidemment, il peut être polymorphe. Ça peut être Dieu, ça peut être le paysage, ça peut être l'autre, ça peut être cette rencontre que tu évoques. Qu'est-ce que ça te dit, cette phrase? Je contemple sans intermédiaire celui que j'aime.
Ah! Bien, vous voyez, ça, c'est un poète soufi. Hein? Puis dans le soufisme, c'est pour ça qu'ils sont considérés des hérétiques dans l'islam. C'est que dans ta relation avec Dieu ou dans ta relation tout court avec ce que tu veux, il ne faut pas qu'il y ait d'intermédiaire ou d'interprète.
C'est direct.
C'est direct.
Oui.
Et là, l'expérience, dans mon cas, l'expérience devient possible.
Et donc, le poème est très, très lié à ça, à cette expérience directe.
Oui. Avant, la poésie naît d'une expérience avant de naître par les mots. Peut-être pas toujours, là. À un moment donné, on peut griffonner, puis oups, il se passe quelque chose. Mais moi, j'aime... Je reviens aux fouilles archéologiques. J'aime ce contact sans intermédiaire avec ce qui me fascine, en l'occurrence le temps, un contact dramatique. Il y a des gens qui me disent, oh, pourquoi se donner la peine d'aller en Égypte? Il y a plein de bons documentaires à la télévision. J'en ai vu une dizaine, donc je n'ai pas besoin d'y aller. Bon, c'est une position, là. Je ne juge pas ça, je ne conteste pas ça.
Non, ce n'est pas la tienne, ça.
Mais ce n'est pas la mienne. C'est pas la mienne. Juste pour mon prochain livre, ça fait je sais plus combien de jours et des semaines que je passe sur les rivages de la baie de Fundy, essayer de trouver des choses.
Non, il y a quelque chose de sensuel là, au sens tactile là, dans cette exploration du paysage.
Ben tout à fait. Je vais vous donner un exemple, mais c'est une vision absolument incroyable. Au mois de septembre dernier, je suis retourné à Grand-Pré. afin de trouver des arbres pétrifiés, une forêt engloutie qui date de 4500 ans passés, au moment où les anciens Égyptiens étaient en train de construire la grande pyramide de Khéops. Bon, vous vous mettez à cette époque-là, vous imaginez Grand Pré. C'était pas une île à l'époque, au bout du paysage de Grand Pré, et il n'y avait pas de goulet, mais avec les fortes marées de la baie de Fundy, au fil des ans, il s'est pratiqué une ouverture qui a séparé ce qui est devenu une île de la terre ferme. Et dans le goulet, ça forme tellement des courants forts que l'érosion est maximale. Et en 2005, les archéologues et les scientifiques ont découvert une forêt submergée, donc une forêt qui a été noyée par l'eau de mer. Et vous avez encore aujourd'hui des souches hautes comme ça, des troncs de pin blanc ou de prusse. Mais des racines, on dirait que ça va se mettre à marcher. C'est comme des créatures. Non, mais c'est vraiment bizarre. Et surtout avec l'éclairage cette journée-là, c'est pluvieux. Il faut y aller à les temps de grande marée basse, parce que là, on peut marcher 2-3 kilomètres dans la vase. Et c'était absolument fascinant. J'en ai vu des choses dans ma vie, là, mais là, ça c'est quelque chose qui va... Je ne sais pas sur quoi ça va débloquer, mais c'est certain que tout ça...
Ça t'habite, là, en tout cas.
Ah oui, oui, et ça m'habite. Et je ne sais pas comment ça va sortir dans mon prochain livre. Vous allez être les premiers
le
à lire.
Mais c'est ça que j'allais dire, c'est-à-dire qu'on a commencé avec l'idée de l'errance, mais plus on t'écoute, plus c'est beaucoup plus un poète archéologue dans les strates du temps, dans les strates du langage, dans les strates du paysage, dans les strates de la terre, du pays, des pays. Je reviens encore au début, comme si tu voulais tout embrasser comme individu qui termine dans le livre où la liberté s'incarne.
La liberté, je ne sais pas, ça va toujours s'incarner. Je pense que le plus je vais avancer, le plus j'arriverai à un entendement, à une compréhension de la terre que j'habite depuis pas si longtemps que ça quand même, à comparer à son âge, mais là où je vis présentement, je pense que la fascination, les découvertes vont... Bon, c'est exponentiel tout ça. Hein. Depuis que je m'intéresse à l'histoire, c'est fou. Je passe des heures et puis on trouve un élément qui nous fait prendre telle direction. Puis là, on veut abandonner tout ce qu'on a fait et aller uniquement dans cette direction-là. Ça nous paraît comme une grande découverte. Et à un moment donné, c'est d'essayer de faire la synthèse de tout ça. Mm-hmm. Et je pense que oui, je pourrais arriver à incarner une certaine liberté le jour où je comprendrai exactement ce qui s'est passé sur le territoire que j'habite.
Oui.
Et pas juste dans un passé récent ou plus ou moins récent, mais dans un passé très, très, très lointain. En fait, c'est très cosmique parce que quand on parle des 350 millions d'années sur Terre, tous les bouleversements qu'ils ont eu depuis et qu'ils risquent d'avoir après, et surtout qu'on est dans une nouvelle ère, l'Anthropocène, où la première marque des activités humaines sur la géologie de la planète, ça nous permet d'entrer dans une dimension vraiment de l'univers, là, du cosmos, de voir à quel point sur un petit grain de poussière comme ça, il y a tant de changements, mais aussi tant de manifestations de la vie.
Oui. Et on pourrait en parler longtemps, on pourrait continuer longtemps là-dessus, mais il y a aussi un élément, ce que je ne veux pas oublier, c'est la question du... une espèce d'une tension vers la sagesse, vers le calme, vers une paix avec le monde, en quelque sorte.
Ah oh oui, ça prend ça. J'ai, à un moment donné, je me suis dit, bon, j'en ai vu là, la misère humaine, puis j'ai vu la violence et tout, puis à un moment donné, il faut mettre...
J'en ai assez, là.
Et comme je disais, dans la traite d'épaule, c'est le premier voyage que j'ai fait dans mon propre pays, mais depuis que j'habite Moncton, ça va faire 9 ans pendant les fêtes, moi, je découvre tout. Je connaissais pas Halifax, je connaissais pas la Nouvelle-Écosse, absolument pas, même le littoral du Nouveau-Brunswick, l'île du Prince-Édouard. Et donc, depuis 9 ans, j'ai l'impression d'être constamment en voyage.
Oui, oui.
Et il y a des points de vue culturels que j'ignorais complètement, que partagent à la fois les Mi'kmaq, les Malécites, les anglophones de différentes origines écossais, irlandais et les Acadiens. La culture du chalet.
Ah oui.
Hein, ça, c'est génial dans les maritimes de pouvoir, quand on est tanné du quotidien, de se louer un chalet à plus ou moins brève échéance pour le temps qu'on veut, que ce soit 3 jours, 2 jours, 1 semaine, ce que j'ai fait au mois de septembre. Et ça, pour un ressourcement et un apaisement, il n'y a rien de mieux.
Ouais.
Et il n'y a pas un coin sur le littoral où vous ne pouvez pas louer un chalet.
Et jamais très loin.
Et jamais très loin. Moi, c'est à 20 minutes de mon bureau. Donc, et puis, c'est dépaysement total. Donc, ça, c'est un privilège.
C'est une invitation à aller chez vous, là.
Ah, ben oui. Et, toi, tu n'as pas encore... Es-tu allé à Miscou? Oui, tu as lu dans le phare de Miscou, toi. Donc,
oui, un endroit magnifique. On peut voir percer.
On peut voir percer.
Alors, disons que pour terminer, avant la lecture, j'avais préparé quelques mots comme ça, comme association. C'est un mot... Tu réponds par un mot ou par une phrase. Il n'y a rien de compromettant, ne t'en fais pas. Alors, je commence. Errance.
Sac à dos.
Exil.
Oh. Pierre.
Territoire.
Père.
Être.
Paix.
Corps.
Santé.
Nous.
Eux.
La nuit.
Insomnie.
L'amitié.
Ah, trésor.
Ah, voilà. C'est un peu le tour, parce que c'est des mots qui sont très présents dans ta poésie.
Ah, bon, okay.
La nuit et l'amitié sont intimement liés, notamment, ben, souvent. Enfin, c'est dans ma lecture sauvage que j'ai fait.
De moins en moins, mais...
Et avant de passer aux quelques questions, si vous en avez, on avait pensé terminer cet entretien tout simplement avec quelques poèmes au choix de Serge Patrice dans son dernier livre, donc « Sous la banquise ».
Un paysage aux accents de traîne au fil des anses et des îlets. Entre les glaces, des hommes au nom comme des balles perdues, mains fendues, tendons lacérés. Harfang, orfraie, huard, frayeur. Au fond des gorges, influenza. Parcours sinueux du crucifix en transit sur la peau frôlée. Un livre offert au nord où scintille l'écharpe rose de la sainte bienveillante. Quand elle n'égorge pas la main blanche, la noble, la digne et la hautaine, braquant un doigt plus blanc que blanc vers la banquise, accuse comme s'il n'avait jamais fait la guerre. Jamais embourbée cette main hors de ses propres bourbiers, un doigt blanc pointé vers le chasseur sans vie, un océan pour l'ensevelir et pas une poignée de terre sur son corps. À la dérive. Attendre la neige à défaut de l'entendre se poser sur son visage. La banquise roule sur elle-même comme un dé de chagrin, traverse un continent dont les marins jouent au billard avec les étoiles. Les pêcheurs s'attardent en enterrant leurs morts parce que leurs prières achoppent contre le grès. Avec la faim, il ne reste plus un seul cri à vomir. Ceux qui n'ont jamais bu à la lumière de l'aurore boréale ont sali les glaces, les ont souillées d'une colère hideuse. L'œil sourd au mérite de l'os et du sol, ceux qui n'ont pas de bouche à nourrir ont la langue fourchue, les voilà repus. Ils repartent, ceux qui n'ont pas d'âme. Le hakapik tatoué sur le front nord des corps partis à la dérive en avril, sans même l'espoir d'une épiphanie. Oubliés de celles qui veillent en juillet, on dirait, en secret, on aimerait dire, sans trop blasphémer, qu'ils coulent, s'abîment, sombrent, sans leur nom. Des copeaux, des épaves délimitent ce pays. L'érable et le houblon, le blé noir, le verglas dérive au caprice des courants. Les aînés scrutent le ciel de jour et de nuit. Ils respirent des pans d'horizon. Ils éventent le pergélisol. Des oiseaux étrangers ont remonté du sud. On dit qu'ils ne chassent point les hommes.
Merci. Une question? Commentaires? Bien. De toute façon, merci à Radio Spirale et à Mathieu d'avoir saisi cet entretien lecture. Vous pourrez la réentendre dans quelques semaines. D'ailleurs, demain soir, une autre activité où Serge Patrice est impliqué avec d'autres poètes, dont Louise Dupré, Rodney lui-même, je crois, René Saint-Éloi lui-même, et j'en oublie le Rodney, qui est-ce qui sera là? Josephine Beck, on voit là, au Patro Le Prévost, et ça sera repris. Merci à la Maison de la Poésie d'avoir pensé, organisé cet entretien, et à la librairie Le Port de Tête de nous accueillir et d'accueillir tant d'événements littéraires et culturels. C'est très précieux dans notre cité. Voilà, merci Serge Patrice.
Merci à vous tous.